Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le 13 août 2016, Fidel Castro a célébré ses 90 ans. La semaine dernière, nous sommes revenus sur sa jeunesse et son accession au pouvoir en 1959. Nous avons aussi évoqué la guerre froide et la façon dont Fidel Castro a été quasiment forcé de s'allier à l'Union soviétique pour tenir tête aux États-Unis des décennies durant. Cette semaine, second volet de notre entretien avec Jean-Jacques Kolianski, chercheur spécialiste de l'Amérique latine. Nous allons voir avec lui comment Fidel Castro et Cuba ont tenu bon lors de l'effondrement de l'URSS. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Dans les années 1980, Mikhail Gorbatchev mène une politique de réforme de l'Union soviétique et d'ouverture progressive à l'Occident. Cela encourage une hausse des grèves et des manifestations. En deux ans, entre 1989 et 1991, les régimes communistes s'effondrent dans les républiques satellites, puis l'URSS se disloque. Cela a des répercussions aussi à Cuba, allié de Moscou contre les États-Unis. Jean-Jacques Kolianski nous explique pourquoi.
Le gouvernement cubain s'est trouvé face à la nécessité de gérer l'urgence, puisque l'Union soviétique achetait une grande partie du sucre cubain à des prix supérieurs au prix du marché mondial, et en échange, livrer du pétrole à des prix inférieurs à ceux du marché mondial. Donc l'économie cubaine en elle-même n'était pas viable et donc s'est trouvée face à d'énormes difficultés, ce qui a supposé dans une première étape de faciliter la recherche de compromis là où c'était possible, en Afrique australe, notamment en Angola, afin de rapatrier les troupes, le déploiement des troupes cubaines, qui avait un coût important dans le budget de l'État cubain. Mais ensuite, il a fallu, malgré tout, gérer une situation qui a conduit la population au bord de la famine. Donc, on a trouvé de plus en plus de migrants cubains sur des bateaux, enfin, qui ont essayé de rejoindre les États-Unis, qui étaient poussés non pas par des raisons politiques, mais par des raisons économiques. Donc le gouvernement a été un peu soulagé par ces départs, un peu soulagé par les transferts d'argent envoyés par ces migrants, et il a, à ce moment-là, décidé de s'engager dans la voie d'une petite libéralisation de l'économie en vue d'attirer les investissements étrangers, en particulier en bonifiant un capital qui était immédiatement exploitable, qui ne l'avait pas été jusque-là, c'est le soleil, les plages, rhum, cigares, etc., en vue donc d'attirer des touristes, non pas nord-américains, en raison du blocus de l'île de Cuba qui était perpétué depuis pratiquement les premières années de l'accession de Fidel Castro au pouvoir, mais des touristes sud-américains, mexicains et européens.
Parce que les États-Unis, dans les années 90, renforcent encore leurs sanctions économiques et adoptent des lois qui sont, même en contradiction avec le droit international d'ailleurs, qui sont destinées à étouffer, étrangler totalement tout investissement étranger à Cuba, sous peine de se voir interdire les échanges avec les États-Unis. En gros, si une entreprise, même étrangère, décidait de commercer avec Cuba, elle risquait d'être sanctionnée par les États-Unis. Et évidemment, le choix est vite fait pour les entreprises ou les pays. Ils préfèrent avoir des relations avec les États-Unis, qui est un plus grand marché.
Oui, c'est une décision apparemment paradoxale qui a été prise par les autorités nord-américaines. En ce sens qu'au moment où, d'un point de vue militaire, les experts du gouvernement des États-Unis considéraient que Cuba ne constituait plus une menace militaire pour les États-Unis, c'est à ce moment-là que, d'un point de vue politique, les autorités de l'époque ont considéré que c'était le moment de faire basculer Cuba, qui était en difficulté. Ce sont les lois dites Helms-Burton, du nom des initiateurs de ces lois qui ont été votées par le Congrès, le Sénat des États-Unis.
Mais ça, c'était sous Bill Clinton.
Des initiatives parallèles contre l'Iran. Au même moment, donc après la chute du bloc soviétique, ces mesures-là sont toujours en vigueur, en dépit du rapprochement en cours entre les États-Unis et Cuba.
Alors justement, ce rapprochement a été progressif. En 1998, je crois, il y a la visite du pape Jean-Paul II à La Havane, qui est une première. Et en 2002, la première visite de Jimmy Carter, ancien président des États-Unis à Cuba. Qu'est-ce que ça change, ces visites-là qui restent bon, des symboles, mais qu'est-ce que ça nous dit
C'est une politique de petits pas. Le président Clinton avait bien essayé, mais il s'est trouvé face à une opposition, compte tenu du fait qu'il y avait de très nombreux électeurs des États-Unis d'origine cubaine, qui dans certains endroits, notamment à Floride, avaient un poids électoral important, les relations entre États-Unis et Cuba sont devenues d'ordre intérieur. D'autre part, le Parti républicain était a priori beaucoup plus hostile, pour des raisons idéologiques, à la reprise d'une normalisation sans que Cuba capitule ou ne reconnaisse que bon, le système communiste était une erreur et qu'il fallait en changer. Et effectivement, donc d'anciens présidents comme Jimmy Carter, mais surtout la diplomatie du Vatican, donc trois papes finalement ont visité Cuba, et ces trois papes ont permis de faciliter la gestation d'un compromis ayant permis d'arriver à la situation d'aujourd'hui, qui n'est pas une situation de normalisation totale, mais qui est une normalisation minimale.
Et du point de vue de la vie quotidienne à Cuba, quel bilan tirer de l'ère Fidel Castro ? On sait qu'il y a eu des grandes réussites sur le plan social, avec une éducation gratuite, des logements gratuits ou des loyers extrêmement à prix très modéré, ou l'eau, l'électricité. Cependant, il y avait aussi une grande censure, l'interdiction de toute contestation, parti unique. Quel est le bilan finalement ? Qu'est-ce qui reste de Fidel Castro ?
Oui, bon, le bilan est certainement très positif en matière d'éducation et de santé, qui sont les deux domaines. En matière de logement, c'est plus discutable, la qualité des logements offerts étant relative. Cela dit, la grande faiblesse de ce système, c'est qu'effectivement, la répartition se faisait de façon beaucoup plus égalitaire que dans le passé, celle de la richesse nationale, mais que c'est une richesse qui n'était pas d'origine locale. Jusqu'à la fin de l'Union soviétique, Cuba était maintenue hors d'eau, si je pouvais un peu s'exprimer ainsi, grâce au soutien financier de l'Union soviétique. Ces dernières années, le relais avait été pris par le Venezuela. Lorsque le robinet, pour une raison ou pour une autre, à devise extérieure, vient à se raréfier, le système est bousculé et risque de remettre en question, finalement, faute des devises nécessaires, les acquis sociaux qui ont été obtenus via ces apports extérieurs. Là, Raúl Castro, au mois de juillet, dans un discours à l'Assemblée, a signalé que les difficultés du Venezuela avaient une répercussion forte sur l'économie cubaine. Alors, en ce qui concerne les libertés, bon, c'est un peu comme en Chine, je dirais, dans la mesure où la population a ce qu'il lui faut, il n'y a pas vraiment de souvenir d'une culture d'une démocratique telle qu'elle est pratiquée en Europe. Donc il n'y a pas de demande en dehors de quelques cercles de dissidents qui sont mis en valeur dans les pays occidentaux. Ces cercles ne sont pas très influents sur place, ne sont pas très connus. Le cercle oppositionnel le mieux organisé, c'est celui de l'Église catholique. Mais l'Église catholique ne poursuit pas en priorité l'objectif d'une démocratisation de Cuba, mais celui d'élargir l'espace de vie et d'activité de l'Église catholique dans l'île de Cuba.
Et je crois qu'aujourd'hui, 70% des Cubains environ n'ont connu que Fidel ou Raúl Castro à la tête de leur pays depuis leur naissance. Quel est le regard qu'on porte sur Fidel Castro aujourd'hui à Cuba, alors qu'il a cédé la main il y a 10 ans à son frère Raúl ? Est-ce qu'on rit de ce vieil homme qu'on voit dans des apparitions en jogging à la télé, ou alors est-ce que ça reste une figure mythique ?
C'est une icône que personne ne va essayer d'égratigner ou de toucher. Pour la plupart des Cubains, et c'est ce qu'ils ont appris à l'école, c'est ce qu'ils ont vécu. Pour les plus anciens, c'est celui qui les a détachés des États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui est quelque part vénéré indépendamment de ce qu'est le régime politique. Et c'est un peu le deuxième père de la nation, le premier étant José Martí, le héros de l'indépendance. Et puis il y a Fidel Castro avec un certain nombre d'apôtres, en particulier son Saint-Pierre étant Che Guevara.
Comment se fait-il que la figure adulée, au moins hors de Cuba, ce soit Che Guevara et pas Fidel Castro? Est-ce que c'est parce que Guevara a eu la bonne idée, entre guillemets, de mourir en 67 en pleine beauté, en pleine jeunesse?
Fidel Castro est très honoré dans beaucoup de pays du monde. Hein. Les associations cubano-suisses, cubano-belges, cubano dans différents pays du monde et d'Amérique latine organisent beaucoup de manifestations autour de Fidel Castro. À la différence d'autres régimes communistes, Fidel Castro n'a jamais voulu que sa statue ou ses photos, sa représentation se retrouvent sur toutes les places des villes cubaines, dans les livres d'école et autres. Il n'y a pas eu de culte de la personnalité comme il y en a eu avec Staline ou Kim Il-sung ou Mao Tse-tung. Enfin, celui qui a joué ce rôle-là, quelque part, c'était effectivement celui qui était mort pour la bonne cause, c'est le Che Guevara et la construction d'une espèce de sanctuaire comme un Guadeloupe ou un Lourdes de la Révolution autour de la personnalité du Che Guevara. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une concurrence entre les deux personnages qui sont complémentaires.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS. Pour nous écrire, envoyez vos mails à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.